Les deux bouts de la corde, par Richard Keller. Chapitre 20. Robert Rigaud habitait sur une colline à proximité du bourg. Il avait hérité cette ferme de ses parents. Ils étaient morts l'année de ses 25 ans. Célibataire, il était âgé aujourd'hui de 54 ans. Robert était fils unique et, à la disparition de ses parents, il ne reprit pas l'activité agricole. Il avait aménagé la propriété pour l'élevage de chevaux. C'était sa passion. Il possédait un mâle alezan et trois juments, dont deux poulinières. Les gendarmes engagèrent leur véhicule sur le chemin de terre qui grimpait jusqu'au bâtiment d'habitation. Un gros chien blanc aboya et se mit en travers devant le portail. Robert Rigaud, un bras en écharpe, apparut sur le pas de la porte. Il rappela son chien. Sultan revint vers son maître en grognant. Les gendarmes stoppèrent leur Peugeot et vinrent à la rencontre du propriétaire des lieux. « Bonjour, monsieur. Êtes-vous monsieur Robert Rigaud ?»« C'est moi. C'est à quel sujet ?»« Je suis l'adjudant-chef Sagol et voici mes adjoints. Dans le cadre d'une enquête, nous souhaitons vous demander des éclaircissements sur certains de vos clients. » Rigaud ne bougeait pas du seuil de la porte d'entrée. « Qui, par exemple ?»« Madame et monsieur Germain Drochat. »« Ah, ceux qui sont morts, je pense. »« Absolument. Vous les aviez rencontrés ?»« Oui, chez madame Josette Michal. »« Jamais chez eux ?» demanda Sagol. « Non, j'aurais dû y aller le lendemain du décès. »« Vous dites, j'aurais dû y aller. Pour quelle raison n'y êtes-vous pas allé ?» J'ai eu un accident de la circulation. Donnez-nous des précisions, monsieur Rigaud. Je roulais sur une petite route en direction de mon domicile. Un abruti m'a coupé la route sur la gauche et, pour l'éviter, j'ai donné un coup de volant qui m'a fait perdre le contrôle de la voiture. Le voyage s'est terminé contre un vieux châtaignier. Je vous rassure, l'arbre et l'abruti n'ont rien eu. L'arbre ne s'est pas enfui, mais l'abruti ne s'est pas arrêté. Je me suis cassé la clavicule. « C'était quel jour, à quelle heure ?» questionna le gendarme Gilles. « Le 14 vers midi. »« Pourriez-vous nous indiquer l'endroit précis ?» reprit le chef Sagol. « C'est à 2 kilomètres d'ici. Le croisement se nomme le carrefour du chêne. À cet endroit, il y a un chêne vieux de plusieurs centaines d'années. » « Y a-t-il eu un constat de police ou de gendarmerie, monsieur Rigaud ?»« Non, puisque je vous dis que l'autre conducteur a pris la fuite. » « Avez-vous déposé une plainte ? Pourquoi faire ? Ce genre d'individus, vous ne les retrouvez jamais, c'est du temps perdu. »« Qui vous a secouru ?» demanda Gilles. « Personne, messieurs. Je me suis rendu à l'hôpital en conduisant d'une main. »« Avez-vous des témoins ?» ajouta Sagol. « Il y a peu de circulation à cet endroit. Seuls des habitués fréquentent cette route étroite. » Gilles reprit la parole. « Possédez-vous un agenda pour vos rendez-vous ? Nous voudrions le consulter. » Rigaud se dirigea vers une voiture garée dans la cour. « Le voilà, monsieur. Je n'y ai pas touché depuis mon accident. » Le calepin était très bien tenu. Robert Rigaud écrivait au crayon de papier, ce qui permettait d'effacer ou de modifier les rendez-vous proprement. Gilles l'examina minutieusement. Rigaud avait bien noté un rendez-vous avec Antoinette Drochard le mercredi 15 mai à 12h30. « Merci, monsieur Rigaud. » Il rendit l'agenda à son propriétaire. « Êtes-vous satisfait, messieurs ?» demanda Robert Rigaud. Le chef Sagol mit fin à l'interrogatoire. « Ce sera tout pour aujourd'hui, monsieur Rigaud. Je vous demande simplement de rester à la disposition de la justice pendant la durée de l'enquête. Nous aurons peut-être besoin de vous solliciter pour d'autres renseignements. Au revoir et à bientôt. » « Au plaisir, messieurs. » Les gendarmes prirent place dans la voiture bleue. Le nordiste était au volant. Liard, qui, comme le nordiste, avait observé toute la scène, résuma le sentiment du groupe. « Ce mec-là, il n'est pas clair. Je pense un peu comme vous. Mais son alibi tient la route. Il faut recouper avec l'hôpital. Nous jouons sur quelques minutes. Gilles et le nordiste, vous irez au service des urgences cet après-midi. Liard, vous vous rendrez à la caserne des pompiers. » afin de procéder aux vérifications qui s'imposent. Élodie, la compagne de Nicolas Favant, le facteur, était de service aux urgences. Il était 14 heures. Gilles et le nordiste se présentèrent à l'accueil. Ils virent une jeune et jolie brune devant l'ordinateur. Elle tourna la tête vers eux. Ses immenses yeux verts éclairaient la beauté saisissante de son visage. « Messieurs, bonjour, que désirez-vous ? » Gilles lui demanda s'il pouvait discuter dans une pièce avec elle. « Je vous demande un instant. J'appelle ma collègue qui est partie boire un café. » Elle sortit en courant. Elle portait une blouse blanche moulante et le contre-jour dans le couloir laissait apparaître par une transparence coquine un string blanc minuscule. Gilles et le nordiste se regardèrent. Les deux hommes pensaient que l'heureux élu de son cœur avait bien de la chance. Ils ne savaient pas que c'était le facteur Nicolas. Elle revint avec sa collègue, qui n'avait malheureusement pas les mêmes atouts qu'elle. « Voilà, messieurs les gendarmes, veuillez me suivre. » Elle les emmena dans une pièce servant à la prise en charge des malades. Gilles lui dit qu'il n'était pas malade. « Rassurez-vous, je ne vais pas vous amputer, si ce n'est pas nécessaire. » Elle avait de l'humour. Gilles précisa le but de leur visite. « Nous faisons des recherches concernant un accidenté qui serait passé par votre service le 14 mai. Il s'agit de M. Robert Rigaud. Comme je n'ai pas de moniteur dans cette salle, je vais noter ce que vous désirez connaître. Ensuite, j'irai consulter les fichiers. Je veux tout savoir sur cet homme, mademoiselle. Je peux vous appeler mademoiselle ? Élodie, c'est mieux. À l'hôpital, c'est l'usage d'appeler les gens par leur prénom. Je vais imprimer sa fiche. En revanche, je n'ai pas le droit de vous communiquer les données médicales. Je comprends, Élodie. Mais avec les informations concernant son passage, ce sera déjà bien. Attendez-moi quelques instants, ce ne sera pas long. » Les deux hommes dirigèrent leur regard vers la porte, dans l'espoir qu'un contre-jour miraculeux se reproduise. « Tu vois, Gilles, les miracles n'ont lieu qu'une fois, » railla le nordiste à l'intention de son collègue. 2 minutes à peine s'étaient écoulées lorsque l'infirmière ouvrit la porte, une feuille à la main. « Monsieur Robert Rigaud a été admis aux urgences le mardi 14 mai à 12h30. Il est reparti à 14h45. Gilles regarda la feuille que lui avait donnée Élodie. Il la lut et relut plusieurs fois. « Élodie, êtes-vous sûr de la date et de l'heure indiquée ?»« Absolument. Chaque arrivée est datée de l'heure de la première saisie. Le départ correspond à l'heure du paiement ou de l'utilisation de la carte vitale. C'est le moment où nous validons les actes effectués. Il ne nous reste plus qu'à vous dire un grand merci pour votre gentillesse. C'est naturel. C'est le contraire qui m'aurait semblé anormal. Au fait, votre monsieur Rigaud a été soigné pour une fracture de la clavicule. Je ne vous ai rien dit. Merci, dit Gilles, et bonne fin d'après-midi. Au revoir, mademoiselle Élodie. Au revoir, messieurs. Les deux hommes étaient à l'ombre sous les platanes. Gilles le premier rompit le silence. « Tu vois, nordiste, nous avons vu un canon de beauté, un rayon de soleil. Oui, cher ami, mais notre homme ne pouvait pas être à la fois chez Toinette et Germain et à l'hôpital. Notre château de cartes s'écroule. » Gilles était toujours convaincu qu'il y avait un détail qui ne cadrait pas dans tout ça. « Nordiste, il y a une pièce du Pulse qui ne fait pas partie du jeu. Tu t'obstines, Gilles. La petite Élodie a fourni la preuve de l'innocence de ce suspect. J'espère que Liard aura plus de chance que nous, » ajouta Gilles. Liard était déjà de retour à la gendarmerie du bourg. Il discutait avec le chef Sagol. Gilles et le nordiste firent irruption dans la pièce. Sagol comprit de suite, à la mine de son adjoint, que la pêche n'avait pas été abondante. « Alors, messieurs, on rentre bredouille ?»« Chef, la Libye est en béton. Nous avons ici une copie de l'admission de Robert Rigaud aux urgences de l'hôpital. À l'heure du crime, il était entre les mains des médecins. Il souffrait d'une fracture de la clavicule. » « Merci, Gilles. Notre collègue Liard a vu le lieutenant des pompiers. Il n'y a pas eu d'intervention pour un accident au lieu-dit du carrefour du Chêne, ni ailleurs, concernant M. Rigaud. Cela corrobore ce qu'il nous a déclaré ce matin. » Gilles reprit la parole. « Chef, je suis convaincu qu'il y a un détail qui nous échappe dans le cas de Robert Rigaud. J'ai été frappé par son attitude ce matin. Cet homme est un commercial. donc un homme de contact. Ce n'est pas non plus un débutant. Comment pouvons-nous expliquer son comportement à notre égard? S'il ne nous aime pas, son métier lui aurait permis de faire bonne figure. Il ne nous a pas proposé d'entrer. Il est toujours resté avec son chien à ses côtés. C'est une façon inconsciente de tenter de se protéger. Je suis de votre avis, Gilles. Mais avec les billes que nous avons, nous ne pouvons pas retourner chez lui. Il est innocenté par son accident. Élodie termina son service à 18h. Elle se remémorait les questions des gendarmes. Le doute s'insinuait dans son esprit. L'hôpital se situait à 1 kilomètre à l'extérieur du bourg. Elle aimait bien rentrer à pied au beau jour. Nous étions le jeudi 6 juin et la température accusait encore 34 degrés. Nicolas avait décidé d'aller à sa rencontre. Il pensait trouver un peu de fraîcheur à l'extérieur. Il dut vite déchanter. Il n'y avait pas un souffle d'air et la météo annonçait que l'anticyclone s'était fixé sur notre pays pour plusieurs jours. Les dégâts causés par cette vague de chaleur étaient perceptibles au service des urgences. Il ne se passait pas une journée sans qu'il y ait des personnes âgées admises dans un état de déshydratation avancée. Malgré une mobilisation sans précédent du corps médical, quelques décès survenaient quotidiennement. À la moiteur des journées s'ajoutait une pollution qui avait largement dépassé le seuil d'alerte maximum. Il était conseillé aux personnes fragiles de rester chez elles. Élodie marchait d'un pas alerte. Elle était pressée de rentrer à l'appartement pour prendre une douche froide, enfin tiède, car même les canalisations étaient chaudes. Lorsqu'elle aperçut Nicolas, elle fut aux anges. Elle l'embrassa avec amour, passion, tendresse et volupté. Nicolas était prêt à lui donner mieux qu'un baiser, mais les tourtereaux étaient dans la rue. Alors les gestes restèrent chastes. Ils se regardèrent les yeux dans les yeux. Ils ne se parlaient pas, mais leurs regards s'étaient tout dit. Ils avaient des braises incandescentes dans leur corps. Élodie portait une jupe très courte, qui, avec la chaleur et la transpiration, collait à ses cuisses. Nicolas avait du mal à rester sage. La douce Élodie lui faisait vivre d'intenses émotions, qu'elle partageait aussi. Elle était humide, et ce n'était pas seulement dû à la moiteur d'un été précoce. Elle était tout simplement amoureuse et excitée par son homme. Les amants allongèrent le pas. Nicolas avait préparé le repas, et il ne voulait pas dévoiler le menu à sa compagne. Elle lui fit les yeux doux, lui susurra des mots à l'oreille pour le pousser dans ses retranchements. Il tenait bon. Elle lui fit du chantage à voix basse. S'il ne lui donnait pas le menu, elle quitterait son string dans la rue. Nicolas, coquin en diable, la prit au mot. « Chiche, mon amour !» Élodie tergiversait. Elle était prise à son propre piège. Heureusement, ils arrivaient chez eux. Nicolas poussa la lourde porte d'entrée. Après avoir appuyé sur la minuterie de la montée d'escalier, il l'entendit claquer. Elle venait de se refermer. Il se tourna vers sa chérie. Élodie lui dit « J'ai joué, j'ai perdu. » Elle venait de dégrafer sa jupe. Elle quittait son string. « Tu es folle, chérie, on pourrait nous voir. » Élodie lui jeta sa jupe et son string. Nicolas était à la fois craintif et excité. Il avait peur qu'un voisin ne veuille rentrer ou sortir, mais il prenait goût à ce petit jeu. Élodie aussi. Elle grimpa les escaliers en se déhanchant. La lumière brillait sur sa toison frisée. Elle déboutonna son chemisier en arrivant à l'avant-dernier palier. Elle n'avait plus que son soutien-gorge blanc en dentelle. Elle le dégrafa langoureusement et le jeta à Nicolas. Elle était entièrement nue. Nicolas s'approcha d'elle. Elle grimpa les escaliers en se cambrant, la pointe des seins tendus. Il les pinça légèrement. Sa compagne se cambra un peu plus. « Chérie, je n'en peux plus. » Il restait une dizaine de marches à gravir. Élodie arracha la chemise de Nicolas. Elle déboutonna son pantalon. Il se retrouva en caleçon. Elle se baissa pour embrasser le sexe tendu de son homme. La minuterie s'éteignit. Les deux coquins ne rallumèrent pas. Ils firent l'amour sur le palier de l'appartement. Élodie était insatiable, et Nicolas répondait à toutes ses demandes. Il trouva les clés. Ils refermèrent la porte. Nicolas avait préparé une salade composée de crevettes, de pamplemousse et autres fruits et légumes. Ils se mirent à table en restant nus. Ils firent encore l'amour pendant le repas. Élodie se positionna sur la chaise de Nicolas. Ils finirent le repas dans cette position et jouirent intensément. Ils dégustèrent une glace au dessert. Épuisés, les amants prirent une douche ensemble. Élodie cajola son homme. Nicolas lui rendit ses câlineries. La fatigue s'appelait caresse. Les deux amants se levèrent chacun dans un fauteuil. Élodie voulait parler avec Nicolas d'un sujet qui la tracassait. « Chérie, j'ai eu la visite des gendarmes cet après-midi. Je crois que c'est au sujet de tes clients. Que te voulaient-ils ? » Il souhaitait savoir si un patient était venu aux urgences le 14 mai. Et alors ? Ils sont repartis déçus. J'ai cru comprendre qu'à l'heure où il se faisait soigner chez nous, le meurtrier tuait tes clients. Je sais que toi aussi, tu es tenu au secret. Mais qui est ce bonhomme ? Attention, Nicolas. Je risque ma place. Il s'appelle Robert Rigaud. Tu connais ? Oui, c'est le gars qui vend des casseroles cuisine saine. Mais je crois qu'il a eu un accident. C'est vrai, il a une clavicule cassée. J'ai menti aux gendarmes et ça me chagrine. Comment ça ? Tu mens, toi ? Lorsqu'ils m'ont demandé l'heure d'arrivée de M. Rigaud, je leur ai sorti la fiche d'admission. Alors, où est ton problème ? Tu m'as toujours dit qu'il y avait tout sur ce document. En effet, Nicolas, mais j'ai omis de leur préciser un détail qui, à mon avis, doit changer beaucoup de choses pour eux et pour leurs suspects. Quel détail ? Demanda Nicolas impatient. Il y a eu deux fautes dans la programmation informatique de l'hôpital. La première erreur a eu lieu en octobre, lors du passage à l'heure d'hiver. Le responsable informatique s'est trompé. Au lieu de reculer l'horloge du serveur, il l'a avancée d'une heure. La deuxième faute, c'est que l'hôpital a fonctionné pendant plus de 6 mois comme cela. La mise à jour a été effectuée la semaine passée. Sur ta feuille d'admission, à quelle heure Robert Rigaud est-il arrivé ? Il est entré à 12h30 et ressorti à 14h45. Le décalage étant d'une heure, en réalité, il a été pris en charge à 13h30 et il est sorti à 15h45. Le décès ayant eu lieu aux environs de 12h30, c'est sûr, ça change tout. Demain matin, j'irai voir les gendarmes pour leur expliquer ce qui s'est réellement passé et je m'excuserai pour cette grossière erreur. Tu as raison, Élodie. Ils seront contents de ton information.